Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM en ce jeudi 17 février 2022. Et oui, une heure d'émission chaque jour sur l'antenne de Beurre FM, Time Sport, votre quotidienne sportive. Avec au menu de cette émission, allez, en ce jeudi soir, on parlera de la Conference League. L'Olympique de Marseille, ce club français, va-t-il jouer à fond cette fameuse coupe pour cette première édition? On parlera aussi, on fera allez, un florilège de toutes ces rencontres en Europa League, sans oublier aussi le cas Neymar qui revient assez bien. On reviendra, c'est promis, sur ce fameux match qui opposait le Paris Saint-Germain au Real Madrid. Et ce grand Paris Saint-Germain, rêvons plus grand. N'oubliez pas, vous pouvez réagir avec nous dans cette émission sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook ou encore la Twittosphère. Allez, c'est parti, à GoGo Time Sport.
Time Sport.
Et ce soir avec moi pour m'accompagner, on aura cette équipe en la personne de Louis-Marie. Comment ça va, Louis-Marie?
Bah, écoute, ça va très bien. Merci de m'accueillir un deuxième jour d'affilée.
Ouais.
D'être là. On va parler d'autre chose que du PSG. Ah bah non, on parle de Neymar. Le PSG est encore là comme d'habitude.
Ah bah c'est ça, on parle beaucoup du PSG. On aime le Paris Saint-Germain et pas que aussi. On va parler de l'Olympique de Marseille avec Diazon. Comment ça va Diazon?
Ça va super. Hein. On va parler de l'OM, du PSG, nos beaux clubs français en Coupe d'Europe.
On va voir, Pour le moment, en lice encore, Juan Trossé, c'est ça.
Buenas tardes.
Bonsoir Juan Trossé.
Buona tarda, dit-on en catalan et buonasera en italien. Donc vous voyez...
On va parler de tout le monde, c'est ça.
On veut, on fait.
De toute l'Europe.
Oui, parce qu'il y a des matchs qui vont terminer dans quelques minutes.
Hein. Ouais.
Et parmi ces matchs, il y a le Barça dont on parlera demain, par contre.
Oui, ça c'est sûr. Voilà, on parlera aussi du FC Barcelone. L'Olympique de Marseille, Karabag. Allez, c'est maintenant le premier sujet de l'émission.
Time Sport. Le sujet des sociaux.
Une triste affluence, peut-être, concernant ce match-là. C'est ce que les supporters annonçaient pour le match. Mais justement, nous, on aimerait revenir avec toute l'équipe de Time Sport sur cette rencontre et aussi la Ligue Europa Conférence, Louis-Marie. Première édition. Les premiers, peut-être.
Bien sûr. Moi, il y a quand même quelque chose qui me gonfle. Tu parles d'une affluence qui va être encore minime.
Ouais.
Il y a un moment, on peut pas demander et se plaindre en permanence que les clubs français jouent pas la Coupe d'Europe à part la Ligue des Champions, qu'ils en ont rien à faire, qu'ils sont pas sérieux, et ne pas se déplacer. Alors que finalement, le match est à 21h. Autant je comprends qu'on se déplace pas quand le match est à 19h en semaine, c'est compliqué.
Ouais.
Mais à 21h, tu peux y aller, ça coûte pas cher parce que les places sont pas du tout chères et débrades.
À mon avis,
il y a un moment, bah, va soutenir ton équipe. Et surtout que c'est peut-être une petite Coupe d'Europe, mais
il faut la gagner,
c'est l'occasion. C'est l'occasion, c'est pas comme si Marseille se gobergeait de trophées tous les ans. Il y a un moment, ils en prennent pas suffisamment.
Ouais.
Et moi, je pense qu'en plus, cette année, ils vont la jouer. Parce que je pense que le petit Longoria, il a envie de remplir l'armoire à trophées. Il a envie de montrer que c'est un directeur sportif, un président qui a des résultats. Donc, il a bien vu l'opportunité d'aller chercher une Coupe d'Europe. Donc, sérieusement, Marseille, pour moi, va la jouer à fond. Pour l'instant, contre Karabakh, il n'y aura peut-être pas besoin de sortir tout le monde, mais je pense que ça va jouer à fond.
Alors,
et derrière, bah, ça serait bien que le peuple marseillais suive le mouvement.
Ouais,
pour un public chaud comme celui de l'OM, de choisir un peu ses matchs, dans le sens où je me souviens de 2018, le parcours qu'ils font fantastique avec Rudy Garcia. Ça s'est rempli à partir des quoi? Demi-finale peut-être contre Leipzig.
Ouais.
Peut-être en quart, j'ai pu rafraîchir à la mémoire si je me trompe. Mais c'est venu progressivement, le vélodrome s'est rempli progressivement.
Ouais.
C'est dommage quand on sait la ferveur qu'il y a à Marseille.
À Marseille.
Ça reste une Coupe d'Europe.
Ouais.
On a dit Louis-Marie, c'est pas non plus un club qui regorge de trophées ces dernières saisons. On se fait éliminer de la Coupe de France en tout cas il y a quelques jours, donc ça fait un trophée en moins. La Ligue 1, à part miracle, c'est compliqué. Donc là, en vrai, il reste que la Coupe d'Europe. Je sais pas, venez soutenir, venez en masse.
Ouais.
Et puis motivez vos joueurs. Après, ça n'empêchera pas l'OM de gagner, peut-être. Mais
on dit les joueurs sont pas motivés pour ces coupes-là. Bah, c'est aussi aux supporters de montrer que c'est important pour eux. Il y a un moment, si les supporters ne montrent pas que cette compétition elle est essentielle, c'est un problème. Et ça a toujours été le problème en Ligue Europa. Il y a pas beaucoup de supporters qui jouent
certaines choses en
qui
France.
Jouent le truc quand qui jouent la coupe au repas, donc ils peuvent pas demander à l'équipe de la jouer alors que même ne la joue pas.
C'est incroyable, parce que moi ce qui me fait mal sincèrement,
alors c'est quoi,
c'est de voir la deuxième équipe de la Ligue 1 qui joue la troisième division européenne.
Ouais, second classement, c'est vrai,
la nouvelle compétition, ça reste quand même la troisième division au niveau européen, et ça me fait mal parce que ça pourrait parler d'un certain déclassement entre guillemets de la Ligue 1 par rapport à d'autres compétitions. On est d'accord ou pas après?
Ouais, bien mais sûr. Après tu peux pas dire après. Ça alors que Monaco et Lyon sont en Ligue Europa, qu'il y a deux équipes françaises en 8e de Ligue des Champions.
Oui, tout à fait.
Il y a Rennes aussi. Il y a Rennes.
Non mais je suis d'accord, mais retrouver le 12e du championnat français.
Mais ils sont deuxième cette année, l'an dernier.
Voilà. Bon, cela dit, je suis d'accord avec vous. C'est incompréhensible cette idée qu'on a en France. Qu'il faut donner priorité à la Ligue 1. Moi, je veux bien à un moment donné, sauf que prochain match de Ligue 1, c'est Clermont. Alors, si Marseille n'est pas capable de jouer à 100% le match face à Karabakh et n'est pas capable de jouer à 100% le match face à Clermont, peut-être va falloir revoir les objectifs de cette équipe de Marseille. Oui. Et encore une fois, là où je suis vraiment étonné, et vous avez raison encore une fois, c'est cette histoire du public marseillais qui va bouder entre guillemets ce match. Ben non, mais il faut être derrière ces joueurs.
Ça va venir
comme ils l'ont été toujours. Il n'y a rien qui justifie qu'on puisse jouer face à Karabakh avec un stade à moitié plein.
Mais ça,
il n'y a rien qui justifie.
Et ça ne sera pas à moitié plein. Il sera au dixième plein. Ouais. S'il y a 10 000 personnes, c'est le bout du monde.
Et ça viendra, comme j'ai dit, au fur et à mesure.
C'est incroyable.
Non,
mais, et c'est incroyable.
Mais c'est incroyable. Mais moi, ce qui me gêne encore plus dans ce que tu dis, parce que tu as tout à fait raison, c'est qu'on nous dit tout le temps « Ah oui, mais les joueurs, vous comprenez, ils n'aiment pas s'entraîner, ils veulent jouer tout le temps, c'est pas un problème, ils sont jeunes, ils peuvent jouer tous les 3 jours. » Non, mais on entend ça, qu'ils ont envie de jouer. Et que quand il faut jouer tous les 3 jours, « Ah bah non, vous comprenez, c'est compliqué. » Non, ça va, jouer 2 matchs par semaine, c'est gérable quand même. On sont quand même des athlètes de haut niveau. Je vois d'autres sports où ils jouent tous les jours. C'est pas tout à fait la même musique. Hein.
Après, c'est vrai que là, il y aurait pu avoir, encore une fois, Marseille était resté en lice en Coupe de France, là, t'avais 3 compétitions à jouer. Bon, même si je suis pas fan de cette manière de brader un peu les coupes, encore une fois, à la limite, ça aurait pu être compréhensible de se dire, bon, c'est Karabakh, t'as Nice, enfin, t'as la Coupe de France, t'as le championnat, c'est compliqué. Là, voilà, il reste le championnat, comme l'a dit Juan Rosé. T'as Clermont en ligne de mire dans les prochains jours. Tu peux jouer ce match à fond. En tout cas, pour les joueurs, je pense et j'espère que ce sera le cas. Pour les supporters, c'est déjà apparemment compliqué. Après, je peux comprendre aussi la déception. T'es en Coupe d'Europe, en Europa League. Bon, la poule a été pas facile non plus en Europa League. Il y a cette part de déception et de un peu de honte. Et comme l'a dit Juan José, c'est la session rattrapage. Faut pas se mentir, cette compétition, c'est un peu
la session de rattrapage. C'est
un peu la session rattrapage,
quoi, comme à l'époque.
Exactement. Mais là où on est d'accord, c'est que
là, tu la vois, la coupe.
On peut pas se permettre en France. On a combien de coupes d'Europe en France?
Non, mais surtout, il y a un moment donné. Je veux bien tout finalement. Mais si c'est une coupe en bois, montre que c'est une coupe en bois et gagne-la.
Voilà.
Il y a un moment, moi ça m'éclate d'entendre ce genre de discours en mode ouais, c'est une coupe qui vaut pas le coup. Mais t'es qui pour dire ça? Tu l'as gagné 16 fois.
Surtout que maintenant on y est. À la limite, la déception à l'élimination en décembre, voilà, t'es dégoûté, tu vas jouer à la Conference League que tu connais pas du tout. Tu te dis, bon, qu'est-ce qu'on en a à faire de cette coupe? Là, ça y est, on y est. Il y a un trophée, encore une fois, en ligne de mire au final dans ce match. Et faut que les clubs français, arrête avec cette histoire de. Oh, la Coupe d'Europe, je comprends pas, toute l'année tu te bats pour être en place européenne, t'y es, et une fois que tu y es, on préserve la Ligue, en fait c'est un cercle vicieux.
Alors pour le coup, faut quand même reconnaître, moi ma critique elle est envers les supporters, parce que s'il y a bien un club qui ne galvaude jamais la Coupe d'Europe, quelle que soit la compétition européenne qu'il joue, c'est l'OM. Ça, faut leur reconnaître ça.
Même la Coupe Intertoto avant qu'elle disparaisse, c'était l'OM.
Je suis persuadé que l'OM ne galvaudera pas cette Coupe. Moi, c'est mon postulat à départ, je suis persuadé qu'ils vont tout faire pour la gagner. Parce qu'en plus, ils ont un président qui n'est pas français, qui a cette culture qui n'est pas du tout la même.
Donc, et un entraîneur sympa.
Il connaît bien.
Il veut gagner.
Aussi, Jean-Jacques Sampaoli.
On joue à fond tous les matchs. Et les Coupes européennes sont importantes. Et ça me fait un peu rire parce que. Et vous avez là, à l'instant, vous avez un club qui est en train de jouer une Europa League qui est Betis. Betis, quand a retrouvé, il y a 2 ans ou 2-3 ans, a retrouvé une compétition européenne, mais c'était la joie dans la ville. Parce que le club retrouvait une compétition européenne, peu importe que ce soit l'Europa League.
Non, mais tu parles de Betis.
Mais le Betis de Séville qui aujourd'hui, par contre, effectivement, se retrouve donc là-haut et c'est le championnat espagnol. Voilà, c'est comme ça que tu progresses.
Regarde, j'ai un autre exemple.
Séville.
Le dernier match que j'ai vu, de Bordeaux en Coupe d'Europe, parce que je suivais Bordeaux à l'époque, il y a un moment c'était contre l'Eintracht Francfort. Et Bordeaux, c'est pas comme s'ils nous avaient régalé depuis 15 ans.
Les Bordelais, en mauvaise posture.
Depuis les quarts de finale de 2009. Mais ce match contre l'Eintracht Francfort, il y avait plus de supporters de Francfort qui s'étaient déplacés à 12 000 pour venir voir un match à Bordeaux. En Ligue Europa, que de supporters.
On n'a pas cette culture européenne en France. On attend que le parcours soit magnifique.
Tu me parlais de bêtises. Regarde ce que fait Francfort depuis quelques années.
Alors,
c'est un point de départ et c'est une équipe qui progresse petit à petit. Et tu progresses en jouant ces compétitions-là, en te confrontant. Tu ne progresses pas en jouant un match sur deux.
Ouais.
C'est tout. Ça
on
n'a
pas cette culture. On l'a pas en France, malheureusement, cette culture de la Coupe d'Europe. Parce qu'il ne faut pas me faire croire que tous les clubs vainqueurs de la Coupe d'Europe ces dernières années, en tout cas autre que la Ligue des Champions, même si Villarreal l'année dernière, ça reste une belle équipe.
On
ne veut pas me faire croire que ces équipes-là survolent face à des clubs français aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a un manque de... je sais pas, c'est une mentalité qu'on a clairement en France.
Mais il y a quelques clubs qui l'ont pas et c'est pour ça que je le souligne. Je souligne que Lyon joue toujours la Coupe d'Europe, que Marseille joue toujours la Coupe d'Europe, mais ils sont trop peu nombreux.
Voilà.
Il y a beaucoup d'équipes et j'en suis le premier attristé. Je me souviens qu'en Bordeaux, je jouais les Ligue Europa, il y a des années, c'était risible. Alors qu'on veut dire, c'est que c'était une belle équipe, il y avait de quoi faire, on perdait contre des équipes ridicules.
Bien sûr.
Je me souviens d'avoir perdu contre Roda JC, quoi. Qui connaît Roda JC?
C'est aux Pays-Bas, non?
C'est aux Pays-Bas. On a perdu contre des clubs comme ça, contre les Vanes, ou les Vanes, je sais plus. Je confonds.
À l'époque.
Et le problème, c'est que des déroutes comme ça de clubs français, il y en a trop. Alors, moi, j'espère que l'OM va jouer sérieusement cette compétition et qu'elle va la gagner, parce que si elle joue sérieusement, elle doit être, sauf tirage défavorable, elle doit être en demi tranquillement.
Tirage défavorable, il y a Leicester qui est dans la
compétition.
Leicester, il y a PSV. Mais c'est vrai que les autres clubs,
c'est ça, il y en a 3-4. Si tu prends Leicester au prochain tour, t'as le droit de perdre. Leicester, c'est une belle équipe.
Oui, mais voilà, mais hormis Leicester, le PSV et peut-être un autre, le Celtic à un moment donné, c'est vrai que c'est une compétition qui est tout à fait à la portée du deuxième de la Ligue 1.
Et puis c'est comme et surtout, c'est comme ça que tu apprends à gagner. C'est en brillant dans les petits matchs, les petites coupes d'Europe, que tu seras prêt à gagner dans les grandes coupes d'Europe. Ça tombe pas du ciel, en fait. Les mecs croient qu'ils vont arriver en... Imaginez, ils se qualifient en Ligue des Champions.
Ils y étaient l'année dernière, plus. Il y a plus de Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'ils ont fait, l'OM, encore?
Parce qu'ils ont pas cette
encore
habitude.
Encore des records de défaites.
Donc,
à un moment donné aussi, il faut arrêter de se voir plus beau que ce qu'on est. Vous avez en Ligue des Champions l'année dernière.
Mais il faut y aller par palier.
C'était compliqué. On vous a vu en Europa League en début de saison, c'était compliqué. Vous êtes peut-être à votre place finalement, donc joue à fond.
Merci, messieurs.
La preuve, c'est que Lille avait été ridicule l'année dernière et cette année, avec un peu de chance aussi, mais ils se sont retrouvés quand même en huitième de finale de la Champions League.
On fait une courte pause avant de revenir avec justement l'Europa League. N'oubliez pas de réagir sur les réseaux sociaux. Allez, à de suite.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
De retour sur l'antenne de Beurre FM. Et oui, après cette courte pause, toujours en compagnie de Diazon. Il est avec nous ce soir sur l'antenne de Beurre FM. Juan Trossé, sans oublier Louis-Marie. N'oubliez pas, vous pouvez réagir à tout moment avec le hashtag Time Sport sur la Twittosphère avec un petit clin d'œil à nos community managers Nathan ou encore Sarah et sans oublier Farid. Allez, on s'est attardé dans le premier sujet de l'émission sur l'Olympique de Marseille. On va s'attarder un peu sur ces différents clubs en Europa League. Allez, on y va.
Time Sport. La troisième mi-temps.
Promet d'être très très longue cette troisième mi-temps quand je regarde Diazon ou encore Louis-Marie, sans oublier notre consultant Juan Trossé, c'est vrai. Tant de clubs que vaut ces clubs-là sur cette édition 2021-2022 de l'Europa League. Allez Louis-Marie, il ouvre encore le bal.
Moi, avant de parler des clubs, je dois dire cette compétition, elle commence vraiment à me plaire.
Ouais.
Il y a eu une vraie révolution il y a 3-4 ans. Et franchement, quand on voit ce que c'était, je ne sais pas si les plus anciens se souviendront, les moins jeunes de
anciens,
on va dire, de le début des années 2000, où c'était des Portugais, des même si je respecte les clubs portugais, mais
ouais, ça
des
joue
clubs
pas mal.
Russes, des clubs ukrainiens qui avaient beaucoup gagné cette compétition, la Ligue Europa, les gros clubs la boudaient un peu. Là, aujourd'hui, quand je vois les clubs qui sont dans cette compétition, ça donne vraiment envie de la regarder. Quand vous voyez que dans une compétition, vous avez Naples, le Barça, Séville, Leipzig, Braga, le Zenit Saint-Pétersbourg, Séville, l'autre Séville, Borussia Dortmund, Glasgow Rangers, Porto, la Lazio Rome, enfin, l'Atalanta Bergame, que
ouais,
des
aussi.
Clubs qui ont un sacré niveau, ça fait vraiment plaisir. Moi, j'ai envie de la regarder. Ils ont redoté cette compétition, c'est une belle réussite de l'UEFA. Et là, vraiment, on a envie de les voir. Et sachant que là, j'ai cité que ceux qui jouaient ce soir, mais on a quand même deux équipes françaises qui sont vraiment armées pour être brillants dans cette compétition. Mais pour une fois, ça suffira peut-être pas. Parce qu'on se plaignait des clubs français qui ne la jouent pas, même en la jouant, vu les équipes qu'il y a, ça va être tout sauf sinécure pour Monaco et Lyon d'aller loin.
Laissez-moi quand même corriger un tout petit peu le commentaire des Marie, parce que il parlait des débuts des années 2000, sauf que il y a des clubs qui, dans début des années 2000, ont marqué cette coupe-là, notamment Séville, notamment l'Atlético de Madrid, notamment Valence qui avait battu donc
oui, c'est venu juste après
Marseille. Vous voyez donc effectivement il y a des clubs qui n'ont jamais boudé la compétition européenne et notamment les clubs espagnols parce que
c'est vrai que c'était un peu la chasse gardée de l'Espagne pendant longtemps. C'est toujours le cas.
C'est le débat de tout à l'heure. Ça a permis à Séville de grandir et d'aller jouer en Champions League.
Mais le meilleur exemple, c'est ce que tu citais, c'est l'Atlético. L'Atlético, quand ils arrivent en 2014 en finale de Ligue des Champions, tout le monde dit c'est bizarre, ils sortent de nulle part. Non, ils sortent pas de nulle part.
Beaucoup d'expérience.
Ils avaient gagné la Ligue Europa, ils avaient progressé en Ligue Europa. Quand ils arrivent en Ligue des Champions, même si c'est une des premières fois qu'ils la jouent, eh ben ils sont là parce qu'ils ont l'expérience de l'Europe.
Et pareil, ça revient aussi on rebondit en même temps sur ce qu'on disait par rapport à l'OM. Je pense à un club comme Porto, par exemple, début des années 2000, qui gagne une Coupe d'Europe en 2000. On est bien passé pour savoir en France face à Monaco et qui se retrouve après en difficulté, qui dispute régulièrement l'Europa League. Qu'est-ce qui se passe Porto? Eh ben, ils jouent l'Europa League à fond. À l'époque de Falcao, Hulk, ils ont une superbe équipe. Bah, cette Europa League là, elle devient intéressante. Pourquoi? Parce que justement, des clubs comme ça, avec des joueurs formidables, ne boutent pas la compétition. La jouent parfaitement jusqu'au bout.
Intéressant. Ouais,
et ce serait bien que cette année, avec tous les clubs français, on n'exagère pas, mais on a quand même Lyon, Monaco.
On en parlait avec le coach étonné, mais ça jouait pas mal quand même cette année.
Cette année, les clubs français, ils montrent en tout cas, ils montrent qu'il y a de l'envie en Coupe d'Europe.
Mais t'as deux clubs de culture européenne, entre guillemets. Parce que Monaco et Lyon, c'est des clubs qui la jouent généralement.
Déçoivent rarement en Coupe d'Europe.
Qui déçoivent assez peu.
C'est vrai.
Donc là, vraiment, on va avoir une Ligue Europa qui donne vraiment envie. On va avoir des matchs vraiment sympas, franchement.
Et puis pour l'OL, par exemple, on a l'impression que pour une fois, parce que comme on disait aussi pareil par rapport à l'OM, on a d'habitude, les clubs français, c'est plus priorité Ligue 1 et Coupe d'Europe, on verra. Ouais. C'est un peu entre parenthèses. Là, pour l'OL cette saison, j'ai l'impression que c'est plus l'inverse. Quand on voit ce qui se passe en Ligue 1, ce qui se passe en Coupe d'Europe, où ils ont été invaincus en phase de poule, où il y a des joueurs, on a l'impression que le jeudi soir, ils respirent. Vraiment, on a l'impression qu'il y a plus de pression limite en Ligue 1 qu'en Europa League. Et Lyon, je pense que cette année, ça peut aller avec un coach qui a entraîné l'Ajax.
Ola, s'il a aussi compris une chose, c'est qu'il y a quand même une place pour Ligue des Champions à la fin.
Exactement. Oui,
tout à fait. Et là, vous remarquerez, parce que forcément, je m'intéresse beaucoup aux équipes espagnoles.
Donc,
la malchance de voir l'Europa League, du malchance entre guillemets, de voir Barcelone et Séville, notamment Séville qui va y aller tout à l'heure, dans quelques minutes. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a d'autres clubs, comme le Betis Séville ou la Real Sociedad, qui se construisent petit à petit comme ça. Et le fait qu'Anthony Martial aille à Séville n'est pas étrange au fait qu'effectivement il y a une compétition européenne et qu'on va la jouer à fond du côté de Séville. Le fait que Betis se retrouve à ce niveau-là n'est pas étrange au fait que vous avez Nabil Fekir qui est du côté de Betis et qui s'épanouit complètement dans ce club sans la pression qu'il doit éprouver.
Et puis la réalité, c'est qu'en termes de supportariat, quels sont nos grands souvenirs? C'est les soirées européennes. Ouais. Tu parles de Betis Séville. Moi, je me souviens du lob de Zidane en 95-96 contre le Betis. Parce que ça nous marque. Oui. Non, mais est-ce que tu es marqué par une deuxième place ou une troisième place de ton club en championnat? Il n'y a pas ce souvenir de l'instantané. Il n'y a pas ce truc instantané.
À part une
qui
saison
marque.
Exceptionnelle, mais c'est rare.
Oui, mais souvent, une saison exceptionnelle, c'est sur une saison, c'est rarement marqué par moment dont tu te souviens. Et la Coupe d'Europe, comme la Coupe de France, comme ces compétitions à élimination directe,
tu t'en souviens.
C'est des moments instantanés, choses extraordinaires. Alors moi, je parle en tant que Bordelais, mais c'est le 3-0 contre Milan.
Pas mal, on en parlait hier en plus.
Non, mais c'est ces grands moments-là. Et il y a beaucoup de clubs qui pensent comme ça. Va demander à Toulouse, les supporters de Toulouse, dont ils se souviennent. Est-ce qu'ils se souviennent d'avoir fait 3ème de Ligue de Championnat une année et d'avoir pris des tôles
par Liverpool en barrage?
Non, ils se souviennent d'avoir sorti le Naples de Maradona il y a 25, 30, 40 ans.
Ce qui est important maintenant, c'est effectivement que l'année prochaine, on retrouve en Europa League des équipes françaises qui ne sont pas là cette année en 16e de finale. Parce qu'on en a en Champions League, on en a en Conference League avec Marseille, parce qu'il y a d'autres clubs qui sont français qui ont disparu malheureusement ou parce qu'ils n'ont pas fait suffisamment attention à leur compétition européenne. Je pense notamment à Rennes, Nice, etc. Mais ce qui est vrai, c'est que, comme tu as dit tout à l'heure, cette année particulièrement, l'Europa League est très relevée et qu'on voit.
Parce qu'il y a eu des surprises en Ligue des Champions aussi.
Sévilles, ouais. Dortmund, Porto.
Ça fait, ça fait des grands joueurs.
Ça fait, voilà,
des grands joueurs. Il y a du Erling Haaland, du Pierre-Emerick Aubameyang, du Ciro Immobile en Coupe d'Europe cette année.
C'est super bon match.
C'est aussi parce qu'il y a eu des surprises en Ligue des Champions. Parce que tu te retrouves avec des clubs moins prestigieux en Ligue des Champions. Oui. Le Real, le LOSC, le Sporting Portugal dont on parlait hier.
Il y a Real, oui.
Voilà, donc du coup, s'ils sont en Ligue des Champions, c'est qu'ils ont pris la place de quelqu'un d'autre. Et que ce quelqu'un d'autre, il est en coupe en Ligue Europa.
Mais
Leipzig aussi.
C'est quand même intéressant parce que c'est vrai que Villarreal n'est pas le plus fort des surprises dans cette Champions League. Mais n'oublions pas que quand même le Villarreal est allé gagner effectivement l'Europa League l'année dernière. Ah,
donc ça revient, voilà. Ça revient à ce qu'on dit depuis
ça
tout à l'heure.
Ça revient systématiquement.
C'est pas hasard. C'est cette expérience qu'ils ont en allant gagner l'an dernier.
En la jouant sérieusement.
Est-ce que on peut penser que c'est pas ça qui leur a permis cette année d'être performant en Ligue des Champions?
Ou parce qu'il y avait Emery aussi.
Monsieur, non mais en Espagne encore.
Non mais
une
c'est
fois,
vrai, c'est ça.
C'est ce que tu disais tout à l'heure, Juan José, dans le sens où aujourd'hui t'as un joueur, tu signes à Séville, tu sais que t'as limite une chance sur deux, limite de gagner une Coupe d'Europe. C'est quelque chose de pas négligeable pour des joueurs.
Non mais et puis t'as une expérience individuelle où en fait tu te rends compte quand tu joues toutes ces compétitions là que t'es pas perdu au haut niveau. Finalement, quand Villarreal tape Manchester United en finale l'an dernier, ils se disent, mais en fait, on a notre place en Ligue des Champions. Donc, tu n'abordes pas du tout la Ligue des Champions de la même manière cette année que si tu avais perdu en 8e ou en phase de poule la Ligue Europa. T'as la même qualité d'effectif, mais mentalement, tu n'as pas la même approche. C'est comme dans un sport individuel.
Alors,
quand tu fais de la compétition et que tu tapes un mec qui est censé être meilleur que toi, tu dis, mais en fait, tu le joues, tu dis, mais je m'en faisais des montagnes de ce type-là, mais j'ai le niveau.
Ouais.
Et le match suivant, même
comme
si
dans
tu
le tennis.
Perds, même si machin, mais comme dans le tennis, non, mais c'est la réalité.
Ça enlève des complexes.
Voilà, dans le tennis, je parle du tennis, tu le sais bien, mais concrètement, tu fais de la compétition, tu dis, oh là là, ce classement, c'est beaucoup trop fort pour moi. Et un jour, tu joues un mec de ce classement-là, tu dis, mais il n'a pas un meilleur coup droit que moi, il n'a pas un meilleur service que moi. Je suis à ma place. Et donc, tu désacralises, tu te décomplexes. Et du coup, quand tu arrives en Ligue des Champions pour le foot, ce qui nous intéresse, t'as pas la même attitude. Et on en parlait aussi. Lille, c'est l'expérience. Cette année, ils sont sortis en Ligue des Champions. C'est pas un hasard non plus.
Alors, on a avoir fait l'Europa League l'année dernière. Donc, on en revient à chaque fois à la même chose. Jouons sérieusement ces Coupes d'Europe. Arrêtons de brader ces Coupes d'Europe. Arrêtons
comme
de
nos voisins.
Espagnols,
italiens.
Plus beau que ce qu'on est. Les Espagnols, ils ont pile les Coupes d'Europe. Et ils sont toujours là. La joie à
ce
qu'ils disent pas. Bon, cette année, allez, on va voir comment ça se passe.
Mais ça part, pour moi, ça part des supporters. Il y a un moment donné. Aussi. Vous voulez que votre équipe la joue à fond, allez dans le stade.
C'est une mentalité générale. Bien sûr, c'est une mentalité générale.
Comment voulez-vous,
supporters
comment voulez-vous que des joueurs qui arrivent devant un stade vide se disent ce match est important?
Ils voient sur les réseaux aujourd'hui les joueurs.
Voilà,
les réseaux
sociaux,
ils voient les supporters parler, certains. Et la plupart qui disent bon, qu'est-ce qu'on va faire dans cette coupe? Ouais, on s'en fout de cette coupe. Priorité à la deuxième place. Les joueurs, ils voient. Ils regardent ce qui se passe aussi sur les réseaux. Donc, comme l'a dit Lou Marie, au stade comment? Après t'es professionnel, t'es payé, tu vas la jouer la compétition. Tu sais qu'il y a la moitié de ton public qui va pas te regarder.
Mais non, mais le petit supplément d'âme, tu l'as pas.
Voilà.
Tu vas faire ton boulot. On sait très bien que quand un joueur de foot va juste faire son boulot, ça donne rarement des résultats extraordinaires.
Particulièrement un club comme l'OM qui est connu pour être poussé et jouer à 12 avec son 12e homme, comme on dit, qui est les supporters. Donc là, si les supporters font pas le taf entre guillemets cette année dans les matchs comme ça, ça va être
tout par les supporters. Et ça, c'est un message qu'on envoie aux supporters.
Ouais.
Vous voulez que votre équipe grandisse, ça part par vous.
C'est le message de Lumaré, en tout cas. Le consultant de Tam Sport. Oui, rapidement avant la dernière.
C'est que il y a une compétition qui a disparu, qui est l'Intertoto.
Ouais, à l'époque.
Qui a disparu.
Marseille l'avait remporté.
Sauf que j'étais en train de récupérer les infos. Il y a Villarreal qui l'a gagné. Valence qui l'a gagné. Donc voilà. Bon, il y a le Celta de Vigo. Donc voilà, il y a des équipes qui ont gagné cette coupe.
Je sens une pointe de chauvinisme de la part de Juan José, mais mérité. Parce que les faits sont là. Je suis désolé. Il y a un club espagnol vainqueur d'une Coupe d'Europe
tous les ans,
peu importe la Coupe d'Europe. Voilà.
Entre ces, on a parlé d'Europe, on va revenir en France. Ça sera la dernière partie de cette émission, chers auditeurs et auditrices de Beurre FM. On reviendra sur le Paris Saint-Germain. Et oui, il y a toujours à parler de ce Paris Saint-Germain, toujours en lice de cette Champions League. Allez, on va revenir tranquillement. Vous restez à l'écoute de Beurre FM, en transport, à la maison, ou même en voiture. Voilà, vous vous branchez. Beurre FM, voilà, on nous écoute pas mal de fréquences à travers le pays, sans oublier aussi le site internet où on pourrait réécouter justement sur beurrefm.net tous les replays de l'émission Time Sport, mais aussi des autres programmes de votre radio, la radio de la diversité. Voilà, pour écouter Louis Marie ou encore Diazon, sans oublier Franck Rossé. Alors, on se donne rendez-vous rapidement après la pause.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
De retour pour la dernière partie de Time Sport. On est ensemble jusqu'à 21h en ce jeudi soir, jeudi 17 février 2022. Toujours en compagnie de Louis Marie, le Juan Trossé et sans oublier Diazon. Allez, le dernier sujet avec vous.
Time Sport, le mode pressing.
Le Paris Saint-Germain qui a battu donc mardi soir, eh oui, le grand Real Madrid de Carlo Ancelotti ou encore Vinicius Junior et Karim Benzema, l'international français, lors de ce 8e de finale aller de Ligue des Champions. Eh oui, on l'a vu, il y a eu quand même de la révolte, mais plutôt de l'impact concernant Neymar. Pas d'euphorie, il est là avec vous, messieurs, justement. On va en parler pour cette dernière partie. Alors, Diazon.
Ouais, bah, comme tu l'as dit. Pas faire non plus de raccourci, mais Neymar rentre, le PSG marque. Alors on peut, encore une fois, Mbappé, on sait très bien ce qu'il a fait sur cette action, mais
ouais.
Neymar est entré déjà. Première chose impressionnante, il revient de blessure, il demande le ballon, il va fixer 3-4 joueurs, il se cache jamais ce joueur.
Ouais.
On peut lui reprocher tout ce qu'on veut, c'est un joueur qui s'est jamais caché. Quitte à prendre des coups, et des coups, je sais qu'il en prend, il se cache jamais, Neymar. Donc là, il est de retour. Au niveau du système, comment ça va se passer, ça c'est une autre question. On voit que Messi, il joue de plus en plus bas sur le terrain. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Neymar est de retour. On se rappelle que avant sa blessure, notamment, je me rappelle du match contre Manchester City qui a été limite catastrophique hein, à l'Etihad Stadium. Ils étaient tous les quatre devant, ça défendait pas, hein, pour pas dire pas du tout. Donc, comment on joue? Est-ce que finalement c'est pas des nouveaux problèmes pour Pochettino, pardon.
Franchement, est-ce que c'est un
problème de riche, hein, comme on dit.
Ah bah, de riche. Excuse-moi, est-ce que c'est un problème aujourd'hui de se passer d'un Di Maria? Est-ce que ça serait théoriquement un problème de se passer du fantôme de Messi autrement que qu'en termes de communication? Parce que, excusez-moi, aujourd'hui le plus faible, le point faible de cette équipe, c'est quasiment devenu Messi. Ah ouais, il sert à rien sur un terrain. Ah mais il sert à rien sur un terrain.
Ouais.
Non, je suis désolé. Regardez.
C'est
le mec. Le mec ne court pas. Le mec ne provoque plus.
Il trouve quelques décalages trouve quand même quelques... sur ce match.
Bah, encore heureux qu'il trouve quelques décalages.
Pour toi, le 3 sur 10, par exemple, le confrère de l'équipe,
il est mérité. Largement mérité. Pour moi, il n'y a rien à dire. Il est... Parce que non seulement Messi, et c'est déjà ce qu'on disait hier, seulement le mec, il n'est pas à son meilleur niveau, mais ça limite, on peut le comprendre, mais en plus, il est contre-productif pour l'équipe parce qu'il veut jouer les ballons. Rappelle-toi l'action où il vole clairement une frappe qui est toute faite pour Paredes. Le ballon va sur Paredes. Il arrive comme une balle. Et il arrive, il prend la balle. Il prend le coup franc pour de Neymar.
Le pénalty de Mbappé aussi, j'ai l'impression que.
Il doit le tirer,
il prend pas le.
Mais c'est à lui de le tirer.
En début de saison, Mbappé donnait les pénaltys à la Messi. Je sais pas si c'était juste parce qu'il venait d'arriver. Donc, il demandait, en tout cas, il a pris le ballon. Ouais. Sans demander la vision.
Ça, c'est normal peut-être. Parce que c'est la règle aussi. Le joueur qui subit la faute le tire rarement. Et le tireur attitré du PSG, c'est Neymar. Le deuxième, après, c'est Messi. Le troisième, ça dépend.
C'était Mbappé, les gars. Moi, en tout cas, la manière déjà dont il a pris le ballon, il y a une caméra isolée chez nos confrères de RMC sur l'attitude de Messi, puisque tu parles de l'attitude de Messi au niveau, par exemple, de ce match et du penalty. On sentait, on a l'impression que déjà, dès le moment où il prend le ballon dans les, entre guillemets, dans les mains de Mbappé, on a l'impression que. Il a déjà le poids du monde, il tire, on ne sait pas s'il a envie de marquer, s'il a envie de régler un compte, on ne sait pas. C'est vrai que là, je te rejoins sur l'attitude.
En tout cas, sur le retour de Neymar, au moins sur les histoires de pénalty, il n'y aura plus de sujet.
Ah oui,
lui,
là,
c'est
oui,
un super
ah oui.
Spécialiste. Mais le retour de Neymar, parce que c'est quand même le sujet, c'est un énorme joueur, mais qui est trop incertain, mais au moins, lui, il va apporter quelque chose de différent.
Jamais.
Il va peut-être apporter une autre inquiétude au Real.
Ça va faire souffler Mbappé un peu. Bah, un petit peu.
Parce que le Real, globalement, il suffit de museler Mbappé aujourd'hui. Alors,
parce que le jeu, il penche.
Ouais.
Je reviens sur
toi.
Mbappé. En fait, il ne faut pas s'emballer non plus. Ça fait plus d'un mois qu'il était arrêté.
Ouais.
Il revient, il joue 25 minutes. Il est chaud bouillant, il fait la talonne.
Il a fait la teinture.
Tout ce que tu veux.
C'est une belle coupe.
Sauf maintenant, il va falloir qu'il reprenne le rythme, ce qui n'est pas évident, qu'il s'installe. Et là, je suis d'accord avec vous deux, quand vous disiez le fait qu'il revienne, ça va poser des problèmes à Pochettino, parce qu'il va falloir décider qui reste sur le banc,
bien sûr.
Est-ce qu'il laisse Di Maria, est-ce qu'il laisse Messi?
Ce sera Di Maria, hein, le choix
ça,
est déjà
ça
fait.
Ça va être Di Maria certainement, mais bon. C'est pas de débat, hein. Mais maintenant, il va falloir voir le temps qu'il met à retrouver un rythme acceptable. Et surtout, est-ce que le PSG va retomber dans les travers qu'on lui connaît? Bon, il y a eu le match face à Lille avec ses 5 buts, qui peut cacher un peu aussi la forêt de ces 15 derniers jours, ou le match face au Real. Mais ce qui a été développé par le PSG ces dernières semaines, ce n'est pas terrible. Donc, est-ce que Neymar va être capable d'apporter quelque chose d'autre à cette équipe du PSG? Ça reste à voir. Je suis convaincu qu'il y a quand même une certaine fatigue intellectuelle des joueurs en Ligue 1, que maintenant, pour la plupart, je pense, ont commencé à réfléchir sur le match du 9 mars. Et c'est tout ce qui les intéresse. Et à chaque fois que c'est comme ça, leurs prestations en Europe...
Match retour à chaque fois.
Oui, mais leurs prestations en Ligue 1... Laisse à désirer. Voyons voir, parce que
moi je m'inquiète pas pour
malheureusement.
Moi
je m'inquiète pas pour.
Non mais je m'inquiète pas spécialement pour
de cette équipe.
Moi il y a quand même une chose qui me choque aujourd'hui sur le PSG, c'est qu'ils n'ont pas d'alternative offensive. On avait l'impression que c'était une équipe qui avait plein d'armes offensives et aujourd'hui ils sont ultra dépendants.
Il y en a mais inefficaces moi je trouve.
Non mais ouais. Ils ont qui en termes de volume? Mais non mais juste laisse-moi.
Alors,
juste finir. Ils ont qui comme joueur offensif derrière leur trio? Ils n'ont personne, à part Neymar, à part Mbappé qui est capable d'apporter de la vitesse, de la profondeur. Ils n'ont pas d'attaquant de pointe parce que Icardi c'est un fantôme. Di Maria, il est bouilli. Messi, il a pas envie d'être là. Derrière, il y a qui d'autre à part Mbappé?
En termes d'effectifs, dire qu'il y a pas d'alternative, c'est quand même hallucinant quand tu regardes l'effectif dans les faits effectivement il y a des joueurs
même au-delà des noms
quand t'as un joueur comme Mauro Icardi à la base qui est footballeur,
est-ce qu'il te donne de la profondeur
censé, je finis qui est censé être footballeur et censé être attaquant. Il a fait une première saison incroyable quand il fallait qu'on l'achète.
Aussi.
Il était prêté par l'Inter en concurrence avec Cavani. Ouais. Tout allait bien. Même si certains n'étaient pas fans, il marquait, donc il n'y avait rien à dire. C'est vrai que depuis l'année dernière, ça devient compliqué. Cette année, c'est catastrophique. Donc dire qu'il n'y a pas d'alternative, je trouve ça hallucinant par rapport à l'effectif et les solutions. Ouais, ouais. T'as des mecs comme Icardi, comme Draxler. Ok, c'est pas des joueurs aujourd'hui qui apportent une. Quand tu les vois rentrer, offensivement, quand t'as Draxler, tu peux le faire jouer comme contre Rennes, tu peux le faire jouer en numéro 10. Voilà, offensivement, ça apporte à la base.
Non, mais je parlais vraiment d'attaquant. Moi, je trouve que.
Après, il y a Moses Kim qu'on a laissé filer.
Non, mais c'est ça que je suis. Ces dernières années, t'as quand même laissé. T'as laissé partir un nombre d'alternatives qui auraient été plus utiles dans cet effectif.
Kalimundo qu'on a reprêté à Lens.
Mais Kalimundo, il serait pas inutile. Non, mais Diaby, qui s'éclate en Allemagne, qui est énormissime, jamais compris sa vente. Même ne serait-ce que Sarabia, je préférais avoir Sarabia sur le banc, qui peut apporter du dynamisme, qui peut apporter autre chose. Aujourd'hui, le PSG, quand Mbappé n'est pas là, ça manque cruellement de vitesse devant. Il n'y a plus de vitesse.
Manque de vitesse, parce que la profondeur, ce n'est pas Mbappé, c'est Verratti. Parce que c'est lui qui est le métronome, qui a fait l'autre jour.
Il donne les passes.
Mais
il faut que quelqu'un aille les chercher.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que Mbappé tout seul ne fait rien. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on a Mbappé et on a surtout un très bon Verratti.
Quand il est là, c'est important.
Oui, mais là, il est là.
C'est important.
On l'a vu l'autre jour. Et puis, vous avez vu la saison qui est en train d'être faite par Nuno Mendes aussi.
Qui progresse petit à petit.
Un jeune qui met de la vitesse, met de l'intensité.
On parlait d'attaquant, on se retrouve à évoquer que c'est dire la pauvreté du PSG là-dedans. C'est qu'on parlait de vitesse, on parlait de profondeur. On commence à parler d'Hakimi et de Mendes. Ce qui est vrai. Mais la réalité, c'est que du coup, devant, il n'y a aucune profondeur à part Mbappé. Qu'est-ce qui se passe si demain, Mbappé se blesse?
Il me semble qu'il y a un match. C'est le match contre Lens.
Le coach et Kamel en parlaient.
Paris se fait bousculer pour changer en Ligue 1 cette saison. Même s'ils gagnent, encore une fois, ils sont premiers, il n'y a pas de souci. Mais le match contre Lens, Mbappé, il est sur le banc. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il rentre justement, il délivre une passe directe à Wijnaldum qui égalise, il me semble. Et c'est Messi, Neymar et Di Maria, les trois. Donc aucun attaquant de métier. Et on voit ce qui se passe, ça se marche un peu dessus. Ouais. T'as Di Maria, qui est sur un faux pied, qui rentre dans l'axe, qui marche sur les plates-bandes de Messi. Bon, ils ont l'habitude de jouer ensemble en sélection, mais t'as Neymar de l'autre côté maintenant.
Même style.
Alors, rentrer.
Et il n'y a personne dans la surface.
Au final, ça joue à la baballe et il se passe rien.
Ça, c'est un problème tactique aussi. Un problème tactique dans cette équipe parce que tu fais venir des joueurs
qui n'ont pas le profil.
Voilà, qui n'ont pas le profil.
Il faut pas se mentir.
Je comprends qu'on fasse venir Messi à un moment donné. T'as l'opportunité, t'es le PSG, t'as l'argent. c'est de la pub, c'est du merchandising.
Moi, au début de l'année, bon. Je te disais que c'était une connerie de le faire venir. Je me suis fait. Tout le monde m'est tombé dessus.
Ouais.
Aujourd'hui, forcément, est... constater que le fait d'avoir fait venir Messi, ça t'a privé de beaucoup d'autres joueurs parce que forcément, tu dois libérer des places. Et ben, moi, je pense qu'aujourd'hui, le PSG serait beaucoup plus efficace en ayant Sarabia et Moïse Kean qu'avec ce Messi-là. Parce qu'il aurait des joueurs diversifiés, il aurait d'autres profils.
Après, encore une fois, Neymar, c'est une question de système. On en revient à la même question. Voilà comment ça va jouer. Et ça fait que le retour de Neymar, qui dit le retour de Neymar, dit retour de Neymar sur l'aile gauche, son poste de prédilection, où il joue. Donc Mbappé, ça veut dire que Mbappé, tu le remets en pointe. En pointe, il force son jeu. Bah, on peut dire ce qu'on veut, Mbappé, il est exceptionnel sur un côté. Quand il est lancé, quand il est sur son couloir, il y a juste à voir. Le but qu'il met hier, c'est quand il est sur son couloir qu'il est le meilleur. Dans l'axe, il force un peu. Il est capable, il n'y a pas de souci. Il a même mis des buts en jouant dans l'axe. Mais lui-même, je pense que lui-même a compris que son meilleur poste, c'est bien ailier et pas attaquant. Mais ce qu'il fait là, avec le retour de Neymar, il va devoir, j'imagine, rejouer en pointe. Quitte de Messi, comme tu disais, Louis-Marie, qu'est-ce qu'on fait de Messi? Parce que Messi, tu ne le mets pas sur le banc.
Mais
ça, encore une fois, on a acheté un nom.
Messi sur le côté, c'est une catastrophe.
Voilà. Et Messi sur le côté, c'est une catastrophe.
C'est pas son jeu. C'était son jeu du côté de Barcelone quand il était sur les côtés nord, quand il était sur les côtés droits.
Oui,
parce qu'effectivement, tu avais Suarez en pointe et là, bon, ils sont amis. Il s'est décalé un peu sur le côté droit, mais systématiquement,
il rentrait
dans l'axe. Bon, mais le problème,
c'est que
l'équipe jouait pour lui et on s'adaptait à son jeu et à ses mouvements.
Il
n'est pas le cas.
Il avait encore des jambes.
Le coup de rein, il était là.
Et avant-hier, c'était compliqué.
Il joue presque au niveau de Verratti. Quand tu regardes là, il récupère les ballons, il joue limite à côté de Verratti. Est-ce qu'on peut pas arriver à un stade où on se demande est-ce que Messi on va pas finir par jouer milieu de terrain?
Mais il aurait dû. Disons que Messi, sa transition normale. Je terminerai là-dessus. Dans la comparaison avec Ronaldo, on savait que la transition normale de Ronaldo, vu son gabarit, sa puissance, serait de passer de l'aile gauche à la surface pour utiliser sa puissance et son manque de vitesse qu'il n'a plus aujourd'hui. Mais si sa transition normale serait de reculer sur le terrain et de garder l'axe.
Un grand merci, Louis-Marie, aussi Diazone, sans oublier Juan José Dorado, de m'avoir accompagné dans cette émission ce jeudi soir. On se donne rendez-vous dès demain à partir de 20h sur l'antenne de Beurre FM, la suite des programmes. À 22h, vous retrouverez Vanessa, accompagnée de son réalisateur Giovanni. Bye bye et très belle soirée à toutes et à tous.
Retrouvez Timesport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.